comment que notre modèle d'affaires fonctionne, c'est qu'on est en train de créer un fonds d'impact qui s'appelle Trees of Life. Courant de l'année 2020, notre fonds d'impact va être fonctionnel, dans lequel des investisseurs institutionnels ou des investisseurs privés peuvent investir dans nos projets de restauration des paysages forestiers et avoir un retour sur l'investissement intéressant de plus de 10 % annuel.
Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire.
Je suis Brieux Saffray.
Je suis Justine Laurent.
Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design circulable. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires.
Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes.
Vous pouvez nous retrouver sur le site circulable.com ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative.
Bonne écoute à vous.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec Martin du Québec. Bonjour Martin.
Bonjour Brieux, ça va bien?
Ça va et toi?
Oui, très bien.
Alors, je suis très honoré de t'avoir parce que il y a différentes raisons. Déjà parce que j'ai passé un bon moment au Québec il y a quelques années et j'ai une petite affection particulière pour la belle province. Et puis surtout parce que t'es un grand spécialiste de la régénération des espaces naturels. Et je pense que notre entretien va être assez passionnant. Mais déjà, avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours, te présenter tout simplement?
Ah ben parfait, mon nom est Martin Baudouin-Nadeau. Dans le fond, je viens de la région de Québec. Quand j'étais jeune, je suis né et j'ai été élevé sur une ferme laitière. Fait que j'ai été beaucoup près de la nature depuis un très jeune âge dans ma vie.
Tu étais loin de la grande ville, tu veux dire?
Ben, on était à une demi-heure de la grande ville, mais tu sais, c'était vraiment en campagne. C'était un village de 2000 personnes et aussi beaucoup de grandes cultures là, qui sont produites au Québec. C'est une région très agricole. Puis quand j'avais l'âge de 19 ans, je voulais aller apprendre l'anglais. Puis c'est à ce moment-là que je suis déménagé dans l'Ouest canadien. J'ai déménagé à l'âge de 19 ans en Alberta, habité là-bas pendant 2 ans. Puis durant ces 2 années-là, j'ai travaillé pendant 1 an et demi dans les sables bitumineux près de Fort McMurray. C'est là que je me suis aperçu beaucoup que l'impact que l'exploitation des ressources naturelles pouvait avoir sur les terres. Fait que ça m'a amené beaucoup à réfléchir. Et j'ai décidé par la suite de retourner à l'université à UBC à Vancouver où que je voulais vraiment changer de côté et de trouver des solutions pour remettre ces terres-là en production. Parce que l'exploitation naturelle, c'est quand même quelque chose de très important. Tout ce qu'on crée, qu'on construit, qu'on utilise vient des ressources naturelles. Si on regarde juste la bâtisse dans laquelle chacun de nous est présentement, c'est tous des ressources naturelles qui ont été utilisées pour créer tout ce qui est autour de nous. Mais j'ai toujours dit que c'est important d'exploiter ces ressources naturelles-là, mais de façon durable. Et c'est ça qui m'a amené à faire un baccalauréat en sciences forestières, spécialisation internationale, où que je voulais plus me spécialiser dans la remise en production des terres dégradées. Ça m'a amené par la suite à aller étudier 1 an à l'Université du Costa Rica, en Amérique centrale.
Et là, en plus, quand tu pars au Costa Rica, tu as déjà une licence ou un master sur le sujet. Enfin, je veux dire, tu es déjà assez calé, quoi.
Oui, oui. Le Costa Rica, une des raisons pourquoi j'avais choisi d'aller au Costa Rica, c'est que c'est un pays dans les tropiques. C'est un pays qui a un très bon système d'éducation, mais aussi qui est un leader mondial en conservation naturelle, mais aussi gestion durable des ressources. C'est un endroit qui m'a apporté beaucoup dans mon cheminement professionnel. J'habitais 14 mois au Costa Rica, puis ça m'a amené à beaucoup réfléchir et commencer déjà à développer le modèle d'affaires que je voulais développer avec Viridis Terra. Durant cette période-là, là-bas, j'étudiais à cette université, l'Université du Costa Rica en espagnol, mais aussi j'ai été impliqué sur plusieurs projets agroforestiers dans le pays.
D'accord.
Puis juste avant d'aller au Costa Rica, j'ai habité aussi dans une famille en Équateur. Le but était d'améliorer mon espagnol avant pour être en mesure d'aller étudier dans une université complètement en espagnol. Ça a été une très bonne expérience aussi. J'ai été 2 mois là-bas. Puis en tout cas, ça fait partie un peu de mon parcours de vie. Suite au Costa Rica, ma blonde, ça faisait plus de 4 ans qu'on était à longue distance avec Vancouver et San Jose au Costa Rica. Donc, ma blonde me ramenait un peu au Québec.
Bon, ta blonde, pour ceux qui n'ont pas l'habitude du Québécois, évidemment, c'est sa copine.
Oui, c'est ça. Hein. Ouais, que ça faisait plus de 4 ans qu'on faisait longue distance, ma copine. On se voyait 4 fois par année. Et que là, c'était le temps un peu qu'on se rapproche et qu'on se voit un peu plus souvent. Fait que je suis revenu faire une maîtrise en agroforesterie à l'Université Laval dans la ville de Québec. Puis à ce moment-là, j'ai fait c'était une maîtrise, mais avec mémoire de recherche. Je faisais beaucoup de la recherche. Puis la recherche était vraiment spécialisée dans la restauration et remise en production des terres dégradées, incluant les sites miniers. C'est beaucoup là-dessus que j'ai fait mon mémoire. Que j'ai réalisé en 2 ans. Puis ce mémoire-là m'a permis aussi de publier 5 articles scientifiques. Fait que je suis quand même assez fier. Mon directeur de recherche était très impressionné de tout ce qu'on a réussi à faire durant ces 2 années ensemble à l'Université Laval. Depuis ce temps-là, mon ancien directeur de recherche est un Congolais de la République démocratique du Congo. Africain d'origine. On a beaucoup travaillé pour développer des projets à l'international ensemble. Puis c'est ça qui m'a emmené beaucoup. J'ai parti de la compagnie en 2015. Okay. Ça faisait 6 mois que je suis sorti de la maîtrise en agroforesterie. Fait que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de partir de l'entreprise. Parce que j'avais fait plusieurs congrès internationaux en Afrique du Sud. Il y en avait un qui était aussi à Vancouver. Sur fermeture de mines et tout est relié aux ressources naturelles. Puis je trouvais qu'il y avait un manque dans le domaine pour amener des solutions plus durables et plus efficaces pour reconstruire des écosystèmes dégradés, là, pour qu'on les remette en production, pour qu'ils puissent ramener aussi une valeur économique aux communautés dans lesquelles ils se trouvent.
Donc, surtout à cette époque-là, tu vas commencer par créer 2 entreprises.
Oui, ben Symbiotech, c'était l'entreprise de mon directeur de recherche. Fait que j'ai comme embarqué dans l'aventure. Et quand j'ai parti de Redisterra, je travaillais pour Symbiotech en même temps pour aider à développer l'entreprise de mon directeur de recherche. Puis, dans le fond, les 2 premières années de l'entreprise, j'avais gardé des sidelines un peu en dehors de l'entreprise. Qui incluait aussi des contrats de professionnels de recherche avec l'Université Laval pour continuer à développer les nouvelles technologies dans le domaine plus efficaces. Puis après 2 ans, ben là, ça commençait à être trop chargeant, fait que trop de demandant.
Ah oui.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réduire mes activités. J'ai arrêté d'être impliqué à l'Université Laval. Je suis encore impliqué dans Symbiotech comme co-président parce que c'est une entreprise qui peut amener beaucoup. C'est une entreprise qui se spécialise dans la production, développement et production de biofertilisants à partir de micro-organismes. Puis ça a un potentiel énorme parce que quand on les utilise, quand on les développe, on les utilise, ces biofertilisants, sur des terres dégradées, on peut augmenter de 2 à 3 fois la croissance des arbres. Puis parce que souvent, dans une terre dégradée, c'est un sol qui est très minéral. Puis souvent, les racines directement des plantes n'ont pas accès aux minéraux, aux nutriments directement dans la roche ou dans le minéral lui-même. Fait que c'est souvent les micro-organismes qui jouent le rôle de solubiliser ces nutriments, ces minéraux-là. Et quand on est capable d'avoir des biofertilisants à partir d'un micro-organisme hyper performant, on peut augmenter cet accès aux nutriments-là, mais aussi à l'eau, parce que c'est... comme par exemple, les champignons mycorhiziens ont une surface beaucoup plus grande dans le sol que seulement la racine, fait que ça donne accès à des ressources que souvent la racine n'a pas accès directement. Et c'est comme ça que cette entreprise-là est impliquée dans des projets en Afrique, au Québec, en Alberta, dans les sables bitumineux aussi, fait que pour développer ces biofertilisants-là. Fait que moi, j'ai été impliqué dans le développement un bon bout de temps de tous ces nouveaux bioproduits, qu'on pourrait dire, qui peuvent réduire l'utilisation d'engrais chimiques tout en améliorant aussi la croissance et la nutrition des plantes et des arbres.
Alors juste une question sur ces biofertilisateurs, parce que j'ai l'impression que enfin ces bio-engrais, ils sont utilisés uniquement dans des cas de régénération de sol ou ça pourrait être utilisé dans l'agriculture plus productive, disons?
Ça, c'est utilisé aussi en agriculture. Nous, on s'est vraiment spécialisé sur les terres dégradées. Mais il y a une compagnie aussi au Québec qui s'appelle Premier Tech qui produit des biofertilisants pour l'agriculture. Aujourd'hui, il y a plus de 100 000 hectares par année au Canada qui utilisent ces biofertilisants-là directement pour la production de céréales ou de maïs. Puis ça devient de plus en plus intéressant parce que c'est comme par exemple dans les prairies au Canada, on produit beaucoup de céréales,
Oui, bien
mais il
sûr.
n'y a pas beaucoup de production animale. Fait que ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'engrais comme du fumier disponible pour nourrir ces sols-là qui produisent beaucoup de céréales. Alors les biofertilisants deviennent une manière de fertiliser le sol, d'augmenter la productivité du sol, tout en utilisant le moins d'engrais chimiques. Fait que ça, c'est. Puis souvent, ces biofertilisants-là, plus qu'on a des grandes superficies, mais plus qu'au niveau économique, ça devient intéressant. Parce qu'ils coûtent beaucoup moins cher que des engrais chimiques là, quand tu le fais à très grande échelle.
Et en plus, enfin, je veux dire, en impact aussi sur l'environnement, on est sur quelque chose qui est nettement plus vertueux, j'imagine.
Oui, c'est une des raisons pourquoi que je crois qu'on doit beaucoup investir dans le développement de ces biofertilisants-là. Parce que quand on regarde les paysages agricoles, nous, au Québec, au Canada, on a beaucoup de rivières qui sont polluées par une agriculture intensive qui utilise beaucoup de pesticides et d'engrais chimiques. Fait que c'est vraiment ça, on veut vraiment réduire notre impact environnemental, puis au niveau de nos sources d'eau, c'est vraiment important de développer soit ces biopesticides-là ou ces biofertilisants qui peuvent réduire l'utilisation des produits chimiques tout en gardant une bonne productivité de nos terres. Puis une chose qu'on voit aussi, c'est que souvent l'utilisation d'engrais chimiques va réduire la communauté microbienne dans le sol. Fait que il y a beaucoup de sols agricoles qui font l'agriculture intensive présentement, qui sont rendus très pauvres et très peu fertiles à cause que cette activité des micro-organismes n'est plus présente, qui est indispensable dans un écosystème pour bien fonctionner. Puis présentement au Canada, annuellement, on a une augmentation d'utilisation des engrais chimiques de 30 à 40 %. Puis ça, c'est principalement causé par la dégradation des terres agricoles, par l'agriculture intensive. Donc ça demande de plus en plus un besoin de développer des produits, des bio-produits, des biofertilisants ou des biopesticides.
Et donc justement, ça va nous permettre d'introduire maintenant un petit peu mieux ce que tu fais à travers Viridis Terra. Bah ouais, est-ce que tu peux tout simplement nous présenter cette entreprise?
Mais dans le fond, quand j'ai fondé l'entreprise, mon but était de mobiliser une équipe multidisciplinaire qui allait s'attaquer au problème global, mondial de dégradation des terres. Présentement, il y a plus de 2 milliards de terres dégradées sur la planète. Ça représente deux fois la grosseur de la Chine. Puis les experts évaluent que c'est une perte économique de 10 trilliards de dollars US par année, parce que ces terres-là, par le passé, produisaient des biens et services qui avaient une valeur commerciale, mais ils ont perdu beaucoup leur productivité à cause de la dégradation, ce qui fait qu'ils ne fournissent plus autant de biens et services que par le passé. C'est quand même. Puis quand on regarde l'augmentation de la population mondiale, les changements climatiques et tout ça, et ça qui amène des défis énormes, perte de biodiversité, mais la restauration et remise en production de ces terres-là devient incontournable pour le développement durable de nos sociétés. Fait que à ce moment-là, mon but, c'était vraiment, parce que dans le domaine, la restauration des terres dégradées, c'est un domaine qui demande beaucoup d'expertises différentes. Agronome, ingénieur forestier. Quand on travaille dans le secteur minier, ça prend des ingénieurs miniers. Il faut des écologistes, des biologistes, il faut des microbiologistes. Même aussi des hydrologues, des hydrogéologues, parce qu'on travaille souvent à des niveaux de bassins versants et tout ça. Fait que mon but, c'était vraiment de construire cette équipe-là spécialisée dans le domaine qui allait s'attaquer aux problèmes, tout en développant des nouvelles technologies. Fait que nous, depuis 2015, quand j'ai parti l'entreprise, on investit des centaines de milliers de dollars par année canadiens dans le développement de nouvelles technologies. Présentement, on a deux technologies en instance de brevet, puis on en a d'autres en cours de développement là, qui permettent d'améliorer la production des terres dégradées, puis aussi réduire les coûts de restauration. Donc ça, c'est très important à le mentionner. Quand j'ai parti en 2015 de l'entreprise, j'étais seul. Je développais tranquillement l'entreprise. Je savais que le marché s'en venait, que le marché s'ouvrait pour le secteur. Fait que c'est à ce moment-là que c'était l'important de bien développer la structure d'entreprise et tout ça. Mais on avait quelques contrats tranquillement le temps qu'on développe les technologies en 2015, 2016 et 2017. Et 2017, c'est à ce moment-là que l'entreprise a commencé à avoir une croissance. 2017-2018, on a triplé de chiffre d'affaires les 2 années. Et cette année, on a peut-être augmenté de 50%, qui est comme une année de transition avant d'avoir une croissance énorme dans nos activités. En 2015, on a commencé à travailler dans la restauration minière au Canada, parce qu'au Canada, l'industrie qui perturbe, qui dégrade le plus des terres, hein, c'est l'industrie minière et pétrolière. Ou presque 100% de notre business, de nos affaires au Canada et dans le secteur minier.
Mais alors, juste, je pense que c'est important parce que tout ce que tu dis, tout ça semble évident, mais pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu aussi de mine, de sable bitumineux ou autre, tout ce que tu as pu voir déjà par le passé, qu'est-ce que vous permettez vraiment entre, on imagine une carrière, une mine en fin de vie, et le paysage que ça laisse. Donc, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de dessin, genre, il n'y a plus rien, il n'y a plus de vie. Et qu'est-ce que, à partir de ça, vous permettez?
Dans le fond, nous, souvent, mettons, si on parle d'une mine à ciel ouvert, qu'on appelle. Fait que c'est vraiment un gisement en surface. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que on va avoir des excavatrices, on va avoir de la machinerie qui vont sortir le minerai en surface. Mais souvent, il faut savoir que dans le gisement, souvent, on retrouve seulement 1 à 4 % de minerai qui est utilisé soit de l'or, du cuivre ou peu importe. Le pourcentage est très faible. Ce qui fait que ça génère beaucoup de rejets qui devient du stérile qu'on appelle de la roche. Et quand il n'y a pas de minerai en quantité intéressante pour la compagnie minière, mais quand elle concasse le sol rocheux, ça se transforme en différentes roches de différentes grosseurs, entre deux, je dirais, près de 50 centimètres de grosseur, de diamètre, jusqu'à des petites roches qui peuvent avoir quelques millimètres de grosseur. Fait que ça, et qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils amènent ces roches-là dans une halde à stérile qu'on appelle. C'est que ça devient on pourrait dire un gros tas de roches qui est entreposé là, qui n'est pas utilisé par la compagnie minière. Mais aussi, quand la compagnie minière, la roche dans laquelle on retrouve beaucoup de minerais, mais là, elle va être procédée dans l'usine pour extraire le minerai concentré. Mais qu'est-ce qui ressort de rejet minier de cette activité-là? Ce qu'on appelle ça des résidus fins. Fait que ça devient comme une poudre sileteuse dans laquelle très homogène, qui est retourné dans un bassin qu'on appelle un parc à résidus. Fait que c'est un bassin où dans le fond, ces résidus-là sont déposés. Souvent, ces résidus-là vont contenir certains produits chimiques parce que l'extraction demande d'utiliser certains produits pour être en mesure d'extraire le minerai. Et c'est pour ça qu'ils vont le mettre dans un bassin pour s'assurer que ces produits chimiques-là ne se retrouvent pas dans l'environnement. Donc ça, c'est les deux principaux types de rejets miniers. Mais on a aussi du mort-terrain qu'on appelle, qui est comme la surface par-dessus le gisement de minerais. On a une surface de sol minéral qui n'est pas de la roche, que là est souvent entreposée aussi dans une halde à mort-terrain qu'on appelle, qui est un tas de sol minéral. Puis une fois que ce sol-là est entreposé, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que dans le fond, il devient très, il y a très peu d'activité microbienne qui va se passer dans le tas parce que ça devient, comme on peut penser au centre, il y aura plus d'oxygène disponible pour les micro-organismes. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un mort terrain parce qu'une fois qu'il est entreposé, il devient très peu actif au niveau biologique. Puis le fait que là, ça fait qu'il est beaucoup moins attrayant pour les plantes ou fertile pour les plantes. Et ça, c'est les trois types de rejets miniers avec lesquels on doit travailler. Là, il faut considérer que souvent, le stérile, qui est les grosses roches ou les résidus fins, souvent, ces roches-là peuvent contenir des quantités d'éléments traces ou de métaux lourds, comme on peut dire, en très grande quantité. Ça va amener aussi des défis au niveau de contaminants qu'on pourrait retrouver, qui pourraient aussi nuire à la restauration et la remise en production des terres et la reconstruction des écosystèmes. Fait que nous, qu'est-ce qu'on arrive? C'est que les technologies qu'on a développées, c'était pour être en mesure de reconstruire une forêt directement sur ces rejets miniers-là avec très peu d'intrants. Les technologies traditionnelles par le passé, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils utilisaient beaucoup des techniques agronomiques. Fait que c'était beaucoup des espèces herbacées non indigènes des régions où on travaille qui étaient mises pour couvrir, pour donner un couvert végétal directement sur le site. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu avec le temps? C'est qu'après 5 à 35 ans, cette technique traditionnelle-là, il y avait une dégradation qui se faisait du couvert végétal parce que c'est des espèces qui ne sont pas indigènes de la région. Parce que c'est pas adapté aux conditions écologiques de la région. Ça causait beaucoup de problèmes aux compagnies minières et au gouvernement parce qu'ils faisaient les travaux de restauration. Puis par la suite, 5 à 35 ans plus tard, on se retrouvera à retourner vers le même problème qu'on avait par le passé où qu'on avait des rejets qui n'étaient plus couverts de plantes qui recommençaient à relâcher des contaminants à certains endroits dans l'environnement. C'est de là que nous, avec Chiridistera, on a décidé d'investir massivement en recherche et développement pour amener des solutions plus durables. On avait déjà certains de nos mentors qui avaient commencé à l'université dans les années 80-90 à avoir des très bons résultats avec certaines nouvelles technologies de plantation d'arbres, qu'une fois que les arbres étaient bien établis, d'espèces indigènes locales, mais la forêt se reconstruisait par elle-même à travers le temps. Nous, les technologies qu'on a développées, c'était des technologies pour être en mesure d'avoir une plus grande densité d'arbres et d'arbustes de cet écosystème forestier-là, indigène, qui allait pousser directement sur le site pour aussi contrôler l'érosion, qui est souvent un problème dans le secteur minier. Donc maintenant, on est capable d'ensemencer avec une formulation spéciale directement sur des stériles dans la roche ou dans des résidus miniers fins ou dans le mort terrain, puis d'avoir une quantité très dense d'arbres et d'arbustes qui se développent directement sur le site. Puis ça favorise aussi la restauration plus rapide des rejets miniers.
Mais alors attends, il y a pas mal de questions qui me viennent à l'esprit. La première, c'est quand tu parles de technologie, c'est pas forcément des machines, etc. Mais c'est surtout aussi, j'ai l'impression, que c'est des process de travail, enfin de travaux, peu importe. Mais faire en sorte justement que vous ayez des méthodes hyper précises. Et puis surtout, il y a un deuxième aspect qui me vient à l'esprit, c'est un petit peu comme partout, vous vous adaptez aux écosystèmes, et ça, j'imagine que, pour trouver les espèces indigènes, c'est aussi un gros travail de recherche avant d'investir sur un site, non?
Ben, nous, on a déjà notre processus dans lequel, de A à Z, on donne un service clé en main au client. On commence avec lui au début, on développe la stratégie de restauration. Au début, avant de commencer les travaux au terrain, on fait une étude écologique et climato-édaphique, qu'on appelle. Ce qui nous permet de bien identifier comment la succession végétale se fait dans les écosystèmes locaux où qu'on travaille, peu importe si c'est en Afrique, en Amérique latine, ou au Canada, ou dans des milieux très nordiques. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va identifier écosystèmes naturels les écosystèmes perturbés, qui sont les sites miniers. Parce que souvent, dans un site minier, en dedans de 3 à 5 ans après qu'ils ont commencé à exploiter, il y a déjà un peu de régénération naturelle qui se fait près des écosystèmes naturels. Parce qu'il y a un pool de semences, il y a un pool de micro-organismes qui sont très proches, qui sont relâchés sur le site. Ce qui fait qu'on est capable d'utiliser cette information-là qui se passe naturellement pour par la suite finaliser de développer la stratégie de restauration. et que ça nous permet d'identifier les espèces.
Les premières semences pour travailler ta régénération, quoi.
Ouais, c'est ça. Ça permet d'identifier les espèces clés qui jouent le rôle de reconstruire l'écosystème. Ça permet de bien comprendre aussi la problématique parce qu'on regarde la différence entre le sol naturel et le sol, les rejets miniers, le sol perturbé, tu sais, au niveau des minéraux, des métaux lourds et tout ça. Fait que par la suite, une fois que cette étude-là est bien complétée, c'est de là qu'on amène nos technologies d'ensemencement qu'on a appelé Sylvaine, mais aussi Microlignon, qui est une technologie de micro-bouture qu'on appelle. Fait que on utilise des bouts de branches ligneux vivants aussi qui peuvent permettre de reconstruire rapidement l'écosystème avec certaines techniques de plantation pour des espèces d'arbres qui sont un peu plus difficiles à s'implanter, des espèces plus de fin de succession qu'on va appeler. Fait que nous, la seule chose qu'on fait vraiment, c'est qu'avec nos technologies, on accélère le processus naturel. On se bat pas contre la nature, on travaille avec la nature. Puis ça, c'est de quoi que j'ai souvent vu dans le domaine, c'est que des gens vont essayer. Je regarde par exemple dans le secteur minier, c'est que il y a beaucoup de techniques d'ingénierie civile ou minière pour confiner les contaminants sur des sites très problématiques quand il y a beaucoup de contamination comme du drainage mini-acide ou d'autres types de métaux lourds en très grande quantité comme l'arsenic ou peu importe. Souvent, ils vont utiliser des techniques d'ingénierie civile pour confiner le problème. Puis là, cette technique-là demande de contrôler la végétation. Souvent, qu'est-ce que je dis à mes clients ou à ces professionnels-là? Je dis, allez-vous contrôler la végétation pendant 1000 ans, 5000 ans, 10 000 ans? C'est pas durable. C'est aucunement durable. Fait que c'est de là l'importance. Nous, quand on a développé l'équipe multidisciplinaire, c'était d'emmener des solutions d'éco-ingénierie, que j'appelle. Et quand on a une très grande contamination, c'est que oui, les techniques d'ingénierie sont très importantes parce qu'elles sont très efficaces à contrôler le contaminant à court terme. Oui. Qu'est-ce qui arrive avec ces techniques-là? C'est qu'à travers le temps, ils ont une durée de vie. Fait qu'à travers le temps, leur efficacité diminue. Ça cause un problème parce qu'à mesure qu'il diminue, mais il faut que tu retournes faire des travaux. Fait que, tu sais, ce n'est pas durable. Mais quand on regarde au niveau du génie végétal, le génie végétal, c'est le contraire. C'est qu'il est moins efficace à court terme au début, mais à mesure que l'écosystème se développe, son efficacité augmente. Fait que nous, sur ces sites très problématiques-là, c'est qu'est-ce qu'on préconise? C'est beaucoup des technologies d'éco-ingénierie. Fait que c'est un mélange de génie civil et génie végétal dans lequel ton génie civil va contrôler directement ta problématique à court terme pour protéger l'environnement autour. Fait que ça peut être des géomembranes, ça peut être des types de couverts minérales qui sont développés pour assurer que les contaminants ne sont pas relâchés dans l'environnement. Mais avec le génie végétal qui est rajouté par la suite, mais quand cette technique d'ingénierie civile-là diminue en efficacité, mais elle, en végétal, augmente. Ce qui fait qu'on s'assure d'avoir une efficacité à court, moyen et long terme. Fait que c'est beaucoup là-dessus que dans le secteur minier que Viridis Terra travaille, parce que présentement les gouvernements comme au Canada, ils veulent plus reprendre les sites miniers parce que par le passé, après 10 ans, après que la mine était fermée, 10 ans après la fermeture de la mine, le gouvernement reprenait le site minier à sa charge. Mais là, avec les problèmes de non-durabilité des techniques traditionnelles utilisées, mais là, le gouvernement s'est ramassé avec des passifs environnementaux énormes. Puis on parle de plusieurs milliards de dollars. Selon Mining Watch au Canada, qui est un organisme qui suit beaucoup le secteur minier, au Québec, on aurait un passif de plus de 3 milliards de dollars par les activités passives environnementales, par les activités passées du secteur minier. L'Ontario, selon Mining Watch, c'est plus de 11 milliards de dollars. Puis en Alberta, on parle de plus de 200 milliards de dollars.
Alors là, t'es en dollars canadiens, juste pour qu'on ait bien un ordre d'idée, en dollars américains ou éventuellement en euros, il faut diviser par deux ou ça a encore changé dans tous les sens?
Ça doit être en euros, ça doit être, il faut peut-être... Un milliard de dollars canadiens doit être environ 600 millions d'euros.
D'accord. Bon, grosso modo, on divise par deux, on rajoute un peu. Mais c'est des montants hallucinants, quoi.
Oui, fait que là, les gouvernements reprennent plus les sites parce qu'ils veulent plus être de ne plus avoir à leur charge ces problématiques. Les compagnies minières sont rendues à devoir gérer un passif potentiel de plusieurs décennies. Et fait que c'est pour ça que dans le secteur, l'industrie recherche de plus en plus des technologies plus durables parce que ils ne veulent pas payer avec un passif pendant de nombreuses décennies, ce qui peut être nuisible pour leur entreprise et aussi pour les communautés autour et l'environnement.
Bien sûr. Et donc, là, tu évoques un petit peu tout ce que vous faites et venons-en aussi aux premiers résultats que vous avez eus parce que depuis 2015, vous avez travaillé sur pas mal de sites. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur ces résultats?
Ben dans le fond, là, quand on a commencé en 2015, c'est qu'on avait déjà des technologies de des substrats spéciaux de plantation qu'on pouvait planter directement dans les rejets miniers. Fait que ça poussait directement dans la roche et tout ça. Mais là, avec les technologies de recherche, de toutes les nouvelles technologies qu'on a développées, je pourrais te montrer des photos. On est rendu capable de faire pousser un couvert arborescent que j'appelle très dense, qui pousse directement aussi dans les rejets miniers avec très peu d'intrants. Fait que ça, c'est un avantage énorme, là. Fait que ça, cette année, on a atteint En 2019, on a atteint le stade de ces deux nouvelles technologies qu'on a développées, que je considère de qualité satisfaisante, optimisées, puis rendues très efficaces sur le terrain. Fait qu'on commence la commercialisation à grande échelle en 2020 de ces deux nouvelles technologies-là.
Donc, les deux nouvelles technologies, c'est celles que tu nous évoquais tout à l'heure ou c'est encore d'autres?
Oui, c'est ces technologies d'ensemencement, de semences et de micro-boutures.
OK.
Qui sont très complémentaires à ce qu'on faisait par le passé. Okay. Puis ça, si jamais tu veux, je pourrais te partager des photos qui montrent les résultats qui sont incroyables. On rêvait de réussir à faire ça, mais maintenant on a réussi. On a transformé ce rêve en réalité.
Déjà, rien qu'à voir votre site, c'est assez dingue ce qui se passe sur ce site-là, mais effectivement, je suis toujours preneur des photos, je les partagerai dans l'article associé au podcast, donc faut pas hésiter à les regarder. Et justement, on peut peut-être aller un petit peu plus loin parce que tu as parlé rapidement des résultats, enfin, même on n'a pas. Il y a peut-être un site sur lequel tu voudrais t'étendre un petit peu plus parce que là tu as plus parlé de vos technologies, mais est-ce qu'il y a un site sur lequel vous avez des résultats déjà assez impressionnants?
Ben, on en a plusieurs. On a un site dans la région de Chefferville qui est dans le nord du Québec et qui se trouve c'est le nord du Québec et Labrador, comme on peut dire. Mm-hmm. Cet endroit-là, c'est un endroit qui est à 800 mètres d'altitude. C'est des mines de fer. Puis le 800 mètres d'altitude a rendu à un niveau aussi nordique que ça. C'est comme si on serait dans le grand nord canadien. C'est un écosystème de toundra avec des petits arbustes de 5 à 10 cm jusqu'à certains de 30 cm dépendant de où ils se trouvent dans le paysage. La saison de croissance dure seulement un mois et demi par année. fait que l'été commence le 1er juillet et finit à la mi-août. Alors, c'était des conditions très extrêmes. Et en étant très haut, il y a des vents extrêmes hivernales qui causent des défis pour les plantes. Fait que ça, c'est okay, on travaille là-bas depuis 2017. Puis là, on est rendu capable de faire pousser nos espèces indigènes qui sont du saule, du bouleau glanduleux directement dans le rejet minier. Ça a été une réussite incroyable. Dans les dernières années, on optimisait la méthode d'application. On adaptait nos technologies qu'on avait développées dans le sud pour ces conditions-là plus nordiques. Puis à partir de 2020, on va commencer à faire ces activités-là à grande échelle dans cette région-là. Là, parce que ces compagnies minières-là vont perturber plus de 1000 hectares de terre parce que le minerai de fer quand même est un... C'est quand on extrait le minerai de fer, ça perturbe de très grandes superficies comparativement aux terres rares, au lithium ou même aux mines d'or, là, que c'est normalement des beaucoup plus petites superficies.
1000 hectares, c'est déliant en termes d'espace, quoi. Et tout ça, c'est juste pour un site d'extraction de fer.
Ça, c'est un site d'extraction de fer, oui.
D'accord.
Mais il y en a plusieurs autres. sont beaucoup plus grands que ça.
Et comment tu fais, enfin, je veux dire, pour intervenir sur 1000 hectares depuis 2017, enfin, je sais pas, j'entends bien que vous avez développé des technologies et tout, mais il faut quand même pouvoir ensemencer tout ça, quoi.
Ah non, ben, les 1000 hectares ne sont pas encore tous ensemencés. C'est que là, on a ensemencé une dizaine d'hectares pour optimiser la technologie. Puis là, en 2020, on va commencer à restaurer ces superficies-là à plus grande échelle avec le client. Fait que ça, c'est en cours. Mais tu sais, le 1000 hectares va peut-être se restaurer sur une période de peut-être 15 à 20 ans, là, dépendant du développement de la mine et de ses disponibilités en fonds aussi pour faire les travaux.
Et justement, une fois que vous avez restauré un site, enfin, mettons, je sais pas, peut-être un hectare, est-ce que tu as aussi des indicateurs en termes d'impact écologique? Parce que là, c'est principalement le sujet. Je sais pas, par exemple, en termes de quantité d'eau capturée potentiellement, ou peut-être en quantité de carbone aussi capturée, enfin, peut-être en régénération de biodiversité. Est-ce que tu as des chiffres là-dessus?
On n'a pas des chiffres encore. Présentement, c'est des choses qu'on est en train de faire des suivis directement avec des. On travaille avec des chercheurs hein, pour faire les suivis là-dessus de la quantité de carbone qu'on est capable de séquestrer. Une chose importante à mentionner, c'est des endroits où on peut séquestrer le plus de carbone par hectare. Les sites miniers sont les endroits qui ont le plus grand potentiel parce qu'il n'y a pas de carbone dans l'écosystème quand on commence à le restaurer. La seule chose, c'est que souvent la productivité est plus faible parce qu'on travaille avec des conditions un peu plus extrêmes que la moyenne, ce qui fait que le carbone va se séquestrer sur une plus longue période de temps. Ça, présentement, on est en train de regarder avec certains de nos clients pour qu'ils compensent une partie de leurs émissions de gaz à effet de serre à travers la séquestration de carbone améliorée dans la restauration des terres qui ont été perturbées. Et aussi dans le paysage environnant. Fait que, mettons, dans les communautés, avec un potentiel de plantation sur des terres qui ont souhaité dégrader ou dans le paysage agricole pour que ces compagnies minières-là soient en mesure de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est des choses qu'on commence à regarder de plus en plus avec eux.
En plus, ça fait des solutions d'investissement pour eux, j'imagine. Enfin, pour toi surtout.
Oui. Puis en plus, là, avec. Puis qu'est-ce qu'on veut le proposer de plus en plus, surtout dans les pays tropicaux, qui est beaucoup plus facile, c'est que souvent, dans les pays tropicaux, il y a beaucoup de dégradation des terres causées parce que dans un pays tropical, la majorité de la fertilité de l'écosystème se trouve dans la biomasse. Et si tu déforêtes, si tu déboises une forêt complètement, tu perds 90 à 95 % de la fertilité de ton écosystème.
Ah oui,
C'est
d'accord.
pour ça que dans les tropiques, on retrouve beaucoup plus de dégradation que dans les régions tempérées, parce que les régions tempérées, vu que le cycle de décomposition et des nutriments est beaucoup plus lent, la grande partie de la fertilité se trouve dans le sol. Fait que c'est ça la différence d'impact. Puis, fait que là, de plus en plus présentement, un des problèmes que le secteur minier rencontre présentement, c'est que l'acceptabilité sociale des projets miniers est de plus en plus difficile, causée par les passifs environnementaux du passé. Fait qu'il y a beaucoup de projets un peu partout dans le monde qui sont bloqués à cause du manque d'acceptabilité sociale. Puis nous, de notre côté, c'est que de plus en plus, on propose aux clients des solutions pour obtenir la licence, obtenir et maintenir la licence sociale. Et puis, comment qu'on fait ça, comment qu'on fonctionne avec le client, qu'est-ce qu'on lui propose, c'est que non seulement on peut l'aider à restaurer son site, mais on peut avoir aussi un impact au niveau des paysages avec les communautés environnantes. Parce que souvent, dans les pays tropicaux, près des compagnies, des sites, des complexes miniers, on va retrouver beaucoup de dégradation environnementale causée par l'exploitation non durable au niveau de l'agriculture, déforestation et tout ça. Puis nous, on peut aller travailler directement avec les communautés. La compagnie minière peut investir dans cette restauration des paysages-là, que j'appelle. Puis nous, quand on fait la restauration avec les communautés, on crée de la biodiversité. Puis aussi, on séquestre du carbone. Fait qu'en même temps, la compagnie minière, ça peut lui permettre de compenser pour ses émissions de gaz à effet de serre. Puis aussi compenser pour sa perte de biodiversité. Parce que si son complexe minier est de 10 000 hectares, Mais ils vont perturber 10 000 hectares de biodiversité. Mais nous, on peut restaurer ça. On peut restaurer 10 000 hectares de biodiversité en dehors du complexe minier pour compenser pour cette perte-là. Et déjà là, on peut régler deux problèmes de la compagnie minière. Mais en plus, vu qu'on travaille directement avec les communautés bénéficient de ça parce qu'on crée des systèmes agroforestiers, on crée des nouvelles sources de revenus avec des plantations forestières ou dans lesquelles on crée des commodités, du bois d'œuvre, des fruits, du café, du cacao, bois énergie. Fait que tout ça, ça devient des revenus supplémentaires que les communautés peuvent recevoir. Fait que la compagnie minière est en mesure, de cette manière-là, d'augmenter son acceptabilité sociale du projet, puis aussi avoir un impact positif dans la région, qui est durable aussi à travers le temps. Parce que souvent, un projet minier va durer 20, 30, 40 ans, mais les communautés vont habiter là pendant encore des centaines, des milliers d'années. Qu'est-ce qu'on essaie de pousser de plus en plus les compagnies minières? C'est que nous, en travaillant avec nous, on peut augmenter votre impact. Et non seulement vous allez avoir un impact nul, qui n'est pas nocif ou négatif au niveau de l'environnement, parce qu'on travaille avec toute l'approche qu'on fait, on aurait un impact positif sur l'environnement au niveau social et au niveau économique. Donc, c'est beaucoup ça devient de plus en plus intéressant pour les compagnies minières. Puis présentement, nous, on a un mandat au Burkina Faso avec une compagnie minière canadienne progressive, que j'appelle, qui, elle, l'entente qu'elle a avec les communautés, c'est qu'elle a, une fois qu'elle ferme le gisement minier, c'est qu'elle doit recréer un actif agroforestier, un actif qui crée des revenus pour les communautés locales. C'est que nous, on a été approchés parce que avec nos technologies, nos méthodes, nos approches, notre expertise, on a tout ce qu'il faut pour aider cette compagnie minière-là à atteindre son objectif. Je te mentirais pas que c'est des grands défis parce qu'on travaille dans des conditions extrêmes et on doit ramener la productivité d'une terre à un niveau commercial.
Mais ça t'estime, c'est en combien d'années que entre la fin du site et le début, mettons les premiers revenus, par exemple, pour les communautés, t'estimes qu'il y a combien d'années entre les deux?
Ça dépend toujours de l'approche qu'on va utiliser, parce que ça dépend de l'investissement que le client va être prêt à faire. C'est si on amène beaucoup d'intrants extérieurs, organiques ou minérales, qui peuvent reconstruire un sol plus rapidement, on va peut-être être capable de recréer en dedans de cinq ans environ des revenus qui vont revenir aux communautés. Mais si on doit travailler directement avec les plantes, le végétal pour recréer le sol, mais là, on peut penser à plus une période de 10 à 15 ans avant que la productivité puisse revenir pour revendre des biens commerciaux sur le marché. Mais là, ça c'est dans les tropiques. Ça, c'est surtout dans les tropiques. Quand on est dans les régions tempérées comme l'Europe ou le Canada, mais c'est beaucoup plus long parce que on n'a pas des saisons de croissance aussi longues et une productivité aussi rapide que dans les tropiques.
Ouais. Et t'as pas peur, enfin, ou je pense que la remarque a déjà dû être faite que tu sois une espèce de greenwasher, même si j'entends bien que vous avez des impacts positifs, mais je veux dire par rapport à ces activités qui sont très polluantes, etc. Est-ce que t'es pas accusé de permettre de donner un visa à ces activités-là? Enfin, quel est ton point de vue là-dessus?
On n'a pas été encore accusé de greenwashing, mais je m'attends qu'il y ait probablement certaines personnes qui vont le faire. Mais moi, si je regarde, mettons, la transition énergétique, pour qu'on s'en aille vers une économie en faible carbone, BRIUC, on va avoir besoin de 3 fois plus de fer. On va avoir besoin de 5 fois plus de cuivre. On va avoir besoin de plus de 10 fois plus de terres rares et de lithium et de certains minéraux pour produire la même quantité d'énergie comparativement aux combustibles fossiles. Fait que là, tu te dis, OK, faut faire la transition, c'est très important parce qu'il faut lutter contre les changements climatiques puis il faut favoriser le développement durable de nos sociétés. Mais c'est sûr que ça va amener un développement minier énorme qui peut avoir des impacts environnementaux énormes si c'est pas fait de la bonne manière. Nous, de la manière qu'on voit ça, c'est que on veut aider ces industries-là à avoir un impact positif plus grand au niveau environnemental, social et économique. Fait que c'est toujours ça, la vision qu'on a eue, le développement durable, le plus grand impact possible. Puis c'est pour ça que pour nous, on est un peu des perturbateurs dans le secteur parce que il y a encore, je dirais, le secteur minier est encore un secteur qui a besoin de beaucoup de développement plus durable. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais ça prend des entreprises comme la nôtre qui vont amener des solutions pour qu'ils soient en mesure d'être un citoyen beaucoup citoyen corporatif ayant un impact positif beaucoup plus grand qu'il l'a présentement. C'est un peu comme ça qu'on voit les choses. Je comprends aussi certaines personnes qui peuvent voir comme du greenwashing, mais en même temps, ces personnes-là, ils ont un cellulaire, il y a des minéraux dans leur cellulaire. Ils ont des bottes en plastique qui proviennent de l'exploitation des énergies fossiles, des pétrolières.
Ouais.
Alors, tu sais, il faut penser que il va y avoir une transition qui va arriver. Il faut travailler fort pour qu'elle se fasse le plus rapidement possible. Mais il faut s'assurer que nos industries soient le plus efficaces possible au niveau environnemental. Puis c'est pour ça qu'on est présent pour aider ces industries-là. C'est moi, je regarde, mettons, comme par exemple, toutes les vols internationaux de l'aviation, le secteur de l'aviation. Si on regarde les projections, avant qu'on ait un avion électrique, c'est pas demain.
Oui, ça, c'est sûr.
Ça va prendre encore beaucoup de développement technologique qui va prendre de nombreuses années à y arriver. Présentement, si on regarde d'ici 2030, ils ont un potentiel de réduire les émissions de gaz à effet de serre en améliorant leur efficacité au niveau de l'utilisation des combustibles fossiles. Fait que ça, c'est une partie qui peut réduire leur impact au niveau carbone. Le deuxième, c'est l'utilisation de biocarburants. Et le troisième, c'est la compensation à travers les crédits compensatoires carbone. Puis nous, si je regarde, puis ça, on va peut-être changer de sujet, on va passer du secteur minier à plus la restauration des paysages forestiers, si ça te convient bien.
Oui.
C'est que quand j'étais à la COP25 à Madrid...
Donc, juste pour ceux qui l'écoutent plus tard, je fais une petite précision, on est en janvier 2020, la COP25 a eu lieu il y a à peine un mois.
Puis c'est ça, il y avait un scientifique qui est venu présenter qu'est-ce qu'on devait faire pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris d'ici 2030. Une des choses qui était indispensable à faire, c'est probablement réduire notre consommation de protéines animales, surtout le bœuf. Parce que présentement, le bœuf, si on regardait les émissions de gaz à effet de serre causées par la production bovine, ça serait le deuxième plus gros pollueur au monde si ça serait un pays, après la Chine. Ça, c'est une première chose. Mais aussi, si on veut arriver à atteindre nos objectifs, il faudrait restaurer et reforester 20 millions d'hectares par année d'ici 2030.
Par année, d'accord.
Fait que des défis énormes. Et depuis l'accord de Paris, les pays se sont engagés. Ça inclut aussi de la transition énergétique là, qui doit se faire rapidement avec des énergies renouvelables et tout ça. Ça, je veux juste le mentionner. Mais si on regarde un peu la restauration et la forestation des paysages forestiers, depuis l'accord de Paris, il y a de nombreux pays qui se sont engagés à restaurer et reforester des millions d'hectares de terres dégradées. En Amérique latine, quand on additionne tous les engagements des pays, on parle de 50 millions d'hectares d'ici 2030. Puis en Afrique, c'est 111 millions d'hectares d'ici 2030. Puis c'est important de mentionner que plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre de l'Afrique et de l'Amérique latine proviennent de la déforestation, dégradation des terres et changement d'utilisation des terres. C'est plus de 50% qui est causé. Si on regarde au niveau mondial, c'est environ 25% qui est causé par la déforestation, dégradation des terres et changement d'utilisation des terres. Fait que c'est quand même une bonne partie des émissions qui sont causées par cette problématique-là. Fait que non seulement une compagnie qui est présentement en transition, autant au niveau, comme par exemple Shell et Total, ils ont parti un nouveau... des nouvelles filiales qui s'appellent solutions basées sur la nature. Parce que là, ils veulent commencer à compenser pour une partie de leurs émissions de gaz à effet de serre, tout en investissant beaucoup dans les innovations technologiques. Donc ça, ces deux compagnies-là, on pourrait les considérer comme des compagnies pétrolières progressives. C'est eux autres qui commencent plus à essayer de devenir un citoyen beaucoup plus durable, comme on pourrait dire.
Ouais.
Mais tu sais, fait que ces compagnies-là, pendant la transition, s'ils investissent, s'ils achètent des crédits compensatoires carbone, ils peuvent aider à favoriser la restauration et la reforestation à grande échelle d'ici 2030, parce qu'ils vont permettre à des projets de lever et fournir des sources de revenus pour faire ces projets de reforestation-là à très grande échelle. Les experts disent qu'on pourrait contribuer à plus du tiers des objectifs de l'accord de Paris grâce à la plantation d'arbres à très grande échelle sur la planète. C'est le coût, c'est le moyen le moins coûteux de réussir à compenser pour les émissions de gaz à effet de serre présentement sur la planète, tout en ayant un impact énorme au niveau de la résilience. Parce que souvent, quand tu as un paysage qui est dégradé, t'as plus de buffer, qu'on appelle, t'as plus de buffer naturel qui protège les écosystèmes contre des tempêtes qui sont plus fortes.
D'espèces d'amortisseurs, quoi, de...
Naturel. Fait que, tu sais,
Ouais.
comme par exemple, la République dominicaine est un pays que je connais très bien. C'est un pays qu'on a des intérêts à faire des investissements en restauration des paysages forestiers à grande échelle dans les prochaines années. Présentement, tu sais, les ouragans sont de plus en plus forts, de plus forte intensité. Fait que ça leur cause des problèmes énormes parce qu'ils ont beaucoup de dégradation des paysages. Les forêts ont toutes été coupées dans les montagnes et tout ça. Les sécheresses sont plus longues. Fait que quand la sécheresse arrive, il n'y a plus d'eau. Les rivières sont à sec. Ça, c'est à cause que quand tu n'as plus de forêt dans la montagne, quand il pleut, quand les saisons humides arrivent, l'eau, elle ruisselle. Elle s'en va directement dans la rivière et dans l'océan.
Elle n'est pas absorbée par les sols.
Elle n'est pas absorbée par les sols. Quand on a une forêt, on peut absorber 8 fois plus d'eau qui reste dans les écosystèmes que quand on n'a plus de forêt dans les paysages. Fait que lui, tu sais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer le président de la République dominicaine parce que pour lui, la restauration des paysages, c'est incontournable pour le développement durable de son pays. Parce qu'ils voient le problème d'eau qu'ils ont. Ils voient le problème avec les tempêtes qui sont de plus en plus fortes, qui les affectent, qu'il y a des coûts, que ça occasionne des coûts énormes au niveau de dommages causés aux infrastructures et tout ça. Fait que ça devient incontournable de restaurer ces paysages-là forestiers pour aider ces pays-là au développement durable et la prospérité dans le futur. Nous, depuis 3 ans et demi, on a commencé à développer un nouveau modèle d'affaires avec un package technologique pour la restauration des paysages forestiers à très grande échelle. On a ouvert une filiale. En 2018, on a beaucoup évalué différents marchés en Amérique latine pour voir lequel pour nous serait le plus facile et le moins risqué de faire la vitrine de ce nouveau modèle d'affaires-là et package technologique. Finalement, notre choix s'est fait sur le Pérou. On avait des meilleurs partenaires locaux. Le marché était plus mature, comme on pourrait dire. Et depuis 2019, on a commencé à investir des centaines de milliers de dollars au Pérou pour se préparer pour commencer des activités d'ici la fin de l'année 2020, début 2021, de restauration des paysages forestiers à grande échelle dans le pays. Là, présentement, certains de nos partenaires, c'est le gouvernement péruvien qui veut restaurer et reforester 3,2 millions d'hectares d'ici 2030. Fait qu'ils cherchent des solutions, mais aussi, faut mentionner que présentement, le Pérou, dans l'Amazonie, perd environ 170 000 hectares par année de forêt. Puis depuis 2001, il a perdu 2 millions d'hectares de forêt depuis 2001. Fait qu'il non seulement il cherche des solutions pour restaurer, mais aussi pour réduire le problème de la déforestation. Puis nous, notre modèle d'affaires qu'on amène, on travaille directement avec les propriétaires de terres, ceux qui sont sur le terrain, les communautés. On signe des contrats avec eux pour la restauration de leurs terres. Parce que présentement, leurs terres sont rendues de très faible productivité parce qu'elles n'ont pas été aménagées de façon durable.
Oui, il n'y a plus de vie, etc.
Fait que nous, comment que notre modèle d'affaires fonctionne, c'est qu'on est en train de créer un fonds d'impact qui s'appelle Trees of Life, qui va être fonctionnel à partir de d'ici au courant de l'année 2020, notre fonds d'impact va être fonctionnel, dans lequel des investisseurs institutionnels ou des investisseurs privés, comme moi et toi, hein, Priyuk, peuvent investir dans nos projets de restauration des paysages forestiers, puis avoir un retour sur l'investissement intéressant de plus de 10 % annuel.
Ah oui.
Ça fait que ça devient très intéressant pour un investisseur. Puis ça, c'est un projet d'impact. On a un impact énorme. On sort les gens de la pauvreté. On a un impact au niveau environnemental énorme pour la lutte contre les changements climatiques. Puis en plus, on a un impact économique énorme parce que ça crée beaucoup de revenus, autant au niveau local.
Et d'activités locales pour les populations.
Oui, c'est ça. Hein. Fait qu'ils vont créer comme une économie autour de la restauration. Ils vont être en mesure de faire ces activités-là à très grande échelle. On n'a pas le choix de créer une économie autour de ça. Et ça prend le privé qui va être impliqué, qui va investir pour être en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Puis là, dans le fond, la manière qu'on a développé le modèle, c'est que tous les crédits compensatoires carbone qui sont créés dans nos projets appartiennent à l'investisseur. Fait que, mettons, toi, Priup, tu décides d'investir 5 000 $ dans notre projet, mais tous les crédits compensatoires carbone reliés à ton investissement des 20 prochaines années t'appartiennent. Puis moi, j'ai calculé que mon impact carbone pour moi présentement est de 21 tonnes par année.
À titre perso, tu veux dire?
À titre perso, 21 tonnes par année. Puis ça, c'est beaucoup causé par mon transport parce que je voyage beaucoup à l'international vu qu'on a beaucoup on développe beaucoup de business.
Ben oui, bien sûr. Oui.
Puis aussi, vu qu'on travaille beaucoup, nous, on travaille beaucoup sur le terrain. Fait, ça amène des déplacements aussi beaucoup pour se rendre sur les projets dans lesquels on travaille, aussi en voiture. Fait que je te dirais que mon plus gros impact est à ce niveau-là parce que je mange pas beaucoup de viande, de bœuf, de porc ou tout ça. Fait que le reste est très faible. C'est vraiment de ce côté-là. Fait que moi, j'émets environ 21 tonnes de carbone par année présentement. Puis je suis sûr que d'ici 10 ans ou 15 ans, je vais peut-être capable de le diminuer à peut-être 10, mais là, c'est 21. Fait que moi, j'ai évalué que si Martin investissait 14 000 $ US dans le projet de Veredisterra, je pourrais compenser pour toutes mes émissions de gaz à effet de serre des 20 prochaines années.
Ah oui.
Puis tout en ayant un retour sur l'investissement qui est généré par les commodités bois d'œuf, fruits, café, cacao qui sont créés dans nos projets. Et comment ça fonctionne? C'est qu'un investisseur investit dans notre projet. Ça peut être une banque, ça peut être un fonds de pension, ça peut être un investisseur institutionnel, ça peut être moi et toi, Priuk, qui investissent. Puis là, une fois qu'on a cet argent-là, il y a une partie qui est utilisée pour gérer l'actif, l'investissement. Fait qu'on parle d'environ 4 700 $ d'investissement par US par hectare. Il y a 224 $ US par hectare qui est utilisé pour la gestion de l'investissement et de l'actif. Il y a un 1 580 $ US qui est utilisé pour les travaux de restauration avec les communautés locales. Fait que toutes les technologies qu'on amène, pépinières haute performance, laboratoire de biotechnologie, toutes les intrants, les biotechnologies qu'on amène pour augmenter de 2 à 3 fois la productivité des terres sur lesquelles on travaille avec les communautés. Ça c'est inclus dans ce montant-là. Puis le dernier montant de 2 895 $ du 4 700 $ US, c'est émis dans une fiducie.
Une fiducie, c'est quoi?
Pour donner des paiements annuels pour services écosystémiques aux propriétaires de terres pour qu'ils aménagent de façon durable les terres qu'on a restaurées.
D'accord.
Fait que ça, je vais donner un exemple. Parce que souvent, ces personnes-là, la raison pour laquelle il y a beaucoup de dégradation, c'est qu'ils ont besoin de revenus à court terme. Fait que, comme la manière qu'on fonctionne, c'est que si on implante sur un hectare une plantation fruitière, le propriétaire de terre va recevoir environ 300 $ US par hectare par année pour sa plantation fruitière durant les 3 à 5 premières années jusqu'à temps que cette plantation-là se mette à avoir des produits, les fruits qui sont vendus sur le marché. Là, à ce moment-là, le profit relié aux produits sont vendus sur le marché. Là, sont séparés équitablement entre l'investisseur et le propriétaire de terre. Fait que si c'est une plantation de bois d'œuf, c'est entre 7 et 20 ans, dépendant de l'espèce utilisée et tout ça. Le propriétaire de terre reçoit son paiement pour service écosystémique annuel s'il entretient bien sa terre et tout ça. Puis au moment où cette plantation forestière-là est prête à être vendue sur le marché, certifiée non-déforestation parce qu'on a recréé des nouvelles forêts, mais là, c'est à ce moment-là que les profits sont aussi séparés équitablement entre l'investisseur et le propriétaire de terre. L'avantage pour le propriétaire de terre, c'est qu'il reçoit de la formation. Parce que nous, dans le, non seulement on amène la technologie, mais on amène la formation, le renforcement des capacités. Il reçoit tous les intrants, l'arbre, les technologies d'ensemencement, tout ce qui est utilisé pour restaurer les terres, il reçoit aussi de nous. Lui, en échange, il doit mettre la main-d'œuvre sur le terrain pour faire les travaux de restauration de la plantation, puis aussi d'aménager ses terres de façon durable. Puis il reçoit son paiement annuel en même temps. C'est très avantageux. Puis s'il y a déjà des cultures agricoles, ça lui appartient. Nous, on prend seulement, l'investisseur, il a seulement il obtient seulement des profits sur une partie, sur la moitié des profits liés à l'arbre, c'est-à-dire que le bois d'œuvre, le bois énergie, les fruits, le café, le cacao, et tout ça. Fait que, puis ça, c'est très avantageux parce que puis ça a déjà été démontré. On a certains de nos experts qui travaillent avec nous qui ont plus de 40-50 ans d'expérience à travailler en Amérique latine et en Afrique. Puis il faut savoir que après 20 ans, là, ce propriétaire-là, hein, après avoir été partenaire de notre projet, il va être capable d'envoyer ses enfants à les plus grandes universités du pays. Ça, c'est grâce à la vente du bois d'œuvre qui a été créé, de tous les actifs qui ont été créés durant cette période de 20 ans-là. Lui, il n'aurait pas pu attendre 10, 15, 20 ans pour que l'arbre soit prêt à être vendu sur le marché, puis avoir un bon taux de retour sur l'investissement. Mais là, avec nous, ça le permet d'être capable de se rendre jusque-là. Puis en permettant d'être capable de se rendre jusque-là, c'est là que ils sont en mesure de sortir de la pauvreté puis de continuer à aménager de façon durable leurs ressources. Fait que ça, c'est un peu le modèle comment qui fonctionne à l'interne. Fait que ça devient très. Fait que tout le monde en bénéficie. Les communautés, les propriétaires de terres, les investisseurs, le pays lui-même où on travaille. Et pour que ça soit durable, des travaux de restauration et de reforestation, il faut que tout le monde en bénéficie.
Oui, partout, tout à fait. Et alors, c'est parfait, tu as répondu à la question que je t'avais pas posée, mais que je comptais te poser, c'est-à-dire comment les gens peuvent t'aider, t'impliquer, donc éventuellement, c'est effectivement bientôt investir dans TriumPlace. Est-ce qu'il y a, d'autres moyens de t'aider dans ta mission?
Ben, tu sais, nous, c'est sûr que un bon moyen de nous aider, c'est de parler de nous. Plus qu'on va être connu, plus que quand on va lancer le fonds d'impact Trees of Life, quand on va lancer notre campagne de financement de notre projet au Pérou et dans d'autres pays, parce qu'on a l'intention d'être dans 4 pays d'ici 10 ans en Amérique latine. C'est sûr que là, on va être capable de mobiliser plus d'individus, plus de personnes. Moi, j'ai beaucoup confiance aux individus, hein, parce que quand tu regardes les gouvernements, les investisseurs institutionnels, le capital de risque aussi, c'est que les choses avancent très lentement pour la lutte contre les changements climatiques. Je suis sûr que tu as pu le voir de ton côté aussi.
Bien sûr, ouais.
Moi, j'ai beaucoup confiance qu'un individu, lui, voilà, qui veut compenser pour ses émissions, que la lutte pour les changements climatiques pour lui est quelque chose qui le tracasse. Je suis sûr et certain qu'on va être capable de mobiliser beaucoup de gens qui vont vouloir investir quelques milliers de dollars juste pour que des projets comme les nôtres puissent prospérer puis d'avoir un impact énorme au niveau mondial. Fait que c'est beaucoup. Nous, présentement, on travaille avec une agence de communication. On veut de plus en plus se faire connaître. Puis en espérant que d'autres aussi suivent notre
Bien
parcours.
sûr.
On croit beaucoup que le secteur privé a un rôle important à jouer pour la transition, pour la lutte contre les changements climatiques, pour le développement plus durable de nos sociétés. On est dans le processus de devenir B Corp. Puis on est vraiment une entreprise d'impact qui va avoir le plus grand impact autant au niveau social, environnemental et économique. J'ai en espérance que beaucoup d'autres personnes vont nous suivre parce que les défis sont énormes,
Oui, clairement.
puis il faut bouger rapidement pour régler ces grands problèmes-là, pour s'assurer que nos enfants et nos petits-enfants aient un meilleur futur et que plus prospère, comme on pourrait dire.
Ben, c'est parfait, tu fais des très bonnes transitions avec mes questions. J'ai deux petites dernières questions pour terminer cet entretien. D'ailleurs, je te remercie encore pour ton temps. La première, c'est justement si tu avais un mot à dire à ton petit-fils ou à ta petite-fille qui va peut-être naître dans je sais pas combien d'années, en tout cas, je te le souhaite. Et si tu pouvais lui dire un mot maintenant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire?
Dans le fond, si mes enfants auraient des enfants, c'est ça que tu veux dire?
Exactement.
À mon
Un peu finalement, pourquoi tu fais tout ça? Enfin, je veux dire.
je dirais je lui dirais que tout est possible si on y croit. Puis que quand on a des rêves, il faut travailler fort, mais on peut les atteindre en travaillant très fort. Puis que c'est sûr et certain que si on veut s'assurer de créer un monde meilleur, mais faut pas attendre que les autres le fassent, faut le faire soi-même. Puis si tout le monde pense comme ça, mais tout le monde va faire des actions, puis on va arriver plus rapidement à créer un monde meilleur autour de nous. Moi, je veux vraiment que j'espère qu'ils vont avoir confiance en eux, qu'ils peuvent faire un changement, qu'ils ont les capacités de le faire, puis que tout le monde a ces capacités-là.
OK.
C'est ça que je leur dis.
Et justement, pour terminer, pour ceux qui veulent se lancer, tu vois, parfois, effectivement, la prise de conscience est là, mais les gens ne savent pas trop par où commencer. Est-ce que tu as éventuellement des conseils, que ce soit dans le cadre professionnel ou personnel, est-ce que tu as des conseils à donner à ceux qui souhaitent se lancer, mais qui ne savent pas par où commencer?
Le conseil que je donnerais, c'est que il faut que les gens soient très persévérants, parce qu'on se lance dans un domaine qui est émergent, mais qui est tout nouveau. Il y a très peu de personnes encore qui en font. Et c'est souvent vu comme un risque pour les investisseurs, parce que c'est tellement nouveau que ça sort de l'ordinaire. Et qu'est-ce que je leur conseillerais? C'est premièrement de bien s'entourer. Ça, c'est indispensable. Puis de persévérer. Ce seraient les deux choses qui sont très importantes. Puis de ne pas se laisser influencer par certaines personnes qui disent que c'est impossible ou que c'est trop difficile, les risques sont trop grands. Ça prend des gens comme nous qui vont prendre le risque puis qui vont travailler pour créer un monde meilleur pour tous.
Et embarquer tout le monde.
C'est sûr qu'il faut savoir qu'en business, c'est des montagnes russes. C'est pour ça qu'il faut pas être découragé. On a des... fait que souvent, c'est une montagne russe qui monte continuellement. Mais tu sais, si tu regardes à long terme, c'est toujours en croissance. Mm-hmm. Mais dans cette croissance-là, il y a des hauts et des bas. Puis des défis qu'il faut surmonter. Mais c'est normal aussi, parce que quand des choses n'ont jamais été faites, c'est sûr et certain que des fois, il y a des bas qui vont arriver, qu'il faut changer la manière qu'on travaille pour optimiser le business, le modèle d'affaires et l'activité de l'entreprise pour qu'elle soit encore plus efficace.
Eh ben, Martin, je tiens à te remercier pour cet entretien. Est-ce que t'as des choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit?
Ben, je dirais, Priyuk, que pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez visiter notre site web www.inveresistera.com. Mm-hmm. Vous pouvez aussi, si vous êtes intéressé potentiellement à investir dans nos projets à travers notre fonds d'impact Trees of Life qui est en développement, vous pouvez aussi envoyer un courriel à invest@treesoflives.com. Ça fait à ce moment-là, quand vous allez envoyer un courriel que vous avez un intérêt, vous allez tomber dans notre liste d'investisseurs potentiels. Vous allez être tenu au courant à travers les infolettes de l'évolution de nos activités, de notre fonds d'impact et tout ça, où qu'on en est. Fait qu'au moment que vous serez prêt à potentiellement embarquer dans l'aventure avec nous, mais vous serez au courant de toute l'évolution de l'entreprise et de nos projets dans lesquels on travaille.
Surtout que avec les montants que tu donnais tout à l'heure, donc 14 000 $ si je me souviens bien pour tes 20 ans de compensation, ce qui faisait en gros 420 tonnes,
ouais.
Ça fait un prix de la tonne compensée aux alentours de 30-35 $, ce qui est plutôt intéressant par rapport aux solutions sur le marché.
Ouais, puis surtout que il faut rappeler que c'est pas un coût, c'est un investissement, parce que la plupart des crédits carbone que vous allez acheter présentement sur le marché, c'est un coût que vous payez puis vous avez pas de retour. Tandis que nous, c'est un investissement qui permet de créer des forêts, des agroforêts productives avec des communautés qui sont souvent démunies. Puis en plus que vous avez un retour sur l'investissement là-dessus en co-bénéficiant des profits générés par les projets. Alors, il faut que vous voyez votre 30-35 $ comme étant un investissement pour créer un monde meilleur un peu partout dans le monde.
Oui, il y a peut-être même des abonnements à faire au mois, parce que tu vois, je sais qu'il y a une autre entreprise française qu'on avait interviewée épisode 30 à travers Ecoterie, il propose des abonnements chaque mois, les gens peuvent planter un nouvel arbre. Alors, peut-être que ça pourrait être pas forcément un arbre, mais un bout d'hectare à chaque mois, ça peut être intéressant aussi. Ça peut faire des beaux livrets pour les jeunes pour les parents qui veulent investir. Ça pourra faire un beau pécule à la fin enfin, pour leurs 18 ans, disons.
Oh oui. Il y a beaucoup de modèles d'affaires qui sont en train d'émerger un peu partout dans le monde. C'est le fun de voir qu'il y a beaucoup de gens de plus en plus qui travaillent pour amener des organisations, des entreprises qui amènent des solutions. Puis j'en suis très content. Puis c'est sûr qu'il faut tous travailler ensemble parce qu'il y a tellement de grands défis, là. Moi, je vois plus de la collaboration que de la compétition. Puis c'est un peu la mentalité qu'on a. On a de nombreux partenaires un peu partout dans le monde, à différents niveaux, ONG, compagnies, gouvernements, associations. Puis c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille pour optimiser l'impact qu'on va avoir. Puis c'est ça. Puis aussi, il y aura la possibilité aussi dans nos projets d'acheter des crédits compensatoires. Une fois certifié que qu'un certain investisseur ne voudra pas utiliser pour lui. Puis ça, ces crédits-là vont être au prix du marché, dépendant quel prix qu'il est. Soit, je sais, présentement, ça tourne plus autour de 15-20 $, certains endroits à 10 $, mais tu sais, c'est des choses qui vont être possibles aussi à travers. On est en train de développer une plateforme digitale qui s'appelle Trees of Life, ça va être à partir de cette plateforme-là que les investisseurs vont pouvoir investir dans notre fonds. Mais aussi les acheteurs finaux, comme Nestlé, les grandes compagnies qui vont acheter les fruits, les cafés, le cacao ou le bois d'œuvre, ils vont pouvoir acheter directement par ça dans notre plateforme. Puis l'avantage de tout ça, c'est que la plateforme, elle va être très transparente. Ça veut dire qu'un investisseur ou un acheteur final va pouvoir suivre live toutes les suivis, toutes les avancées de son investissement ou de son achat qu'il va faire, la forêt que ça leur a créé, l'impact que ça a eu au niveau social et environnemental. L'impact que ça a au niveau des communautés avec des photos qui peuvent être utilisées pour le marketing pour ces entreprises-là ou les individus qui vont investir ou qui vont acheter nos produits. Ça va être très avantageux parce que présentement, le problème qu'on voit dans le secteur, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui ne sont pas très transparents. Puis des fois, il y a certains projets que les impacts qu'ils ont promis n'ont jamais été atteints. Puis là, de plus en plus, mais c'est sûr que le domaine devient de plus en plus devient de plus en plus attrayant et de plus en plus de gens qui ça m'intéresse. Fait que ces projets-là commencent à avoir des problèmes parce qu'il y a de plus de journalistes qui commencent à faire des vérifications sur qu'est-ce qu'ils font ou peu importe. Puis là, j'ai vu quelques articles qui ont passé au courant des derniers mois qui sur des projets qui avaient pas atteint les objectifs promis. Mais ça, je trouve ça de valeur parce que ça nuit un peu au secteur parce que ça met le doute à certaines personnes d'investir dans ces projets-là. Mais je pense que dans le modèle d'affaires qu'on a développé avec la plateforme qu'on développe chez Viridis Terra, mais ça va permettre de sécuriser ces investisseurs-là et ces acheteurs-là parce qu'ils vont être capables de vraiment voir l'impact de leur investissement ou de leur achat.
Bon, ben encore un grand bravo pour tout ce que tu fais, Martin. Je n'hésiterai pas à suivre attentivement ton actualité et puis grand plaisir quand tu es de passage en Europe pour se voir en vrai cette fois-ci. Et puis je te souhaite une très bonne continuation et puis à bientôt.
Merci beaucoup pour tout, Priyuk. Bien content d'avoir eu la chance de participer à ce podcast. Puis je te tiens au courant la prochaine fois que je suis en Europe. Puis si tu as d'autres questions ou tu as besoin des photos ou peu importe, mais tu as juste à m'envoyer un courriel, puis ça va me faire plaisir de les répondre.
Oui, et puis j'ai deux, trois idées que j'aimerais qu'on évoque ensemble. Encore merci et puis à bientôt.
À bientôt, Brick. Merci beaucoup, bonne journée.
Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com.
C'était Justine Laurent et Brieux Saffré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.